just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Christophe Guillaumeau. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman policier, roman noir, intitulé La chance du perdant, publié aux éditions Liana Lévy. Alors une enquête qui nous plonge dans l'enfer du jeu et de sa dépendance, dans l'univers des paris, des dettes, de la triche et de la violence au cœur de la ville rose. On en parle dans quelques instants, mais avant, comme à l'accoutumée, depuis septembre dernier, je vous propose de vous présenter un autre de mes coups de cœur, un roman policier, restons dans le thème de ce jour, mais celui-ci va nous entraîner en Islande, à Reykjavik. Il s'agit de La femme en vert d'Arnaldur Indridason, un roman noir passionnant, au suspense garanti jusqu'aux dernières pages, une enquête qui plonge dans le passé, celui de la Seconde Guerre mondiale, sur cette île au climat rude, pleine de nature sauvage et de mystères enfouis. Une enquête menée par Erlendur, ce policier atypique, attachant et persévérant, personnage récurrent dans les nombreux romans d'Arnaldur Indridason, qui, en plus d'être un auteur prolifique et renommé, est aussi journaliste et critique de cinéma. Bon, allez, je vous lis la quatrième de couverture de La femme en vert. Dans un jardin sur les hauteurs de Reykjavik, un bébé mâchouille un objet étrange, un os humain. Enterré sur cette colline depuis un demi-siècle, le squelette mystérieux livre peu d'indices au commissaire Erlendur. L'enquête remonte jusqu'à la famille qui vivait là pendant la Seconde Guerre mondiale, mettant au jour les traces effacées par la neige, les cris étouffés sous la glace d'une Islande sombre et fantomatique. Tout un univers et tout le savoir-faire du maître du suspense islandais, donc à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore et à savourer pour tous, La femme en vert d'Arnaldur Indridason.
Page à page, Claire Ambille.
Et merci à Alex pour la technique toujours parfaitement maîtrisée de cette émission. Alors, vous connaissez cet auteur, Christophe, Arnaldur Indridason ?
Alors, je le connais, mais je ne l'ai pas lu.
Ah.
Il y a énormément d'auteurs, et puis, en fait, plus on écrit, et moins on a le temps de lire.
Et oui, ça je comprends.
Et effectivement, avant, je lisais beaucoup, et maintenant, j'ai...
Et bien, vous écrivez beaucoup, voilà, maintenant, alors, voilà. On ne peut pas tout faire.
C'est ça.
Alors, nous quittons l'Islande et nous revenons dans notre ville rose, mais qui apparaît bien sombre dans La chance du perdant de Christophe Guillaumeau, donc aux éditions Liana Lévy. Alors, Christophe, c'est votre troisième roman noir après Chasse à l'homme qui a obtenu le prix du Quai des Orfèvres en 2009.
Oui. Oui, j'ai reçu, c'était une belle surprise pour moi parce qu'en fait, j'avais écrit ce roman sans grand espoir de même le publier. Et puis en fait, en participant au prix du Quai des Orfèvres, j'ai eu la surprise d'être le lauréat, de me retrouver à côté de Belmondo qui était mon parrain.
Ah,
et,
oui.
Et donc voilà, et puis après tout s'est enchaîné assez rapidement.
Et donc ensuite, il y a eu le deuxième roman noir, Abattez les grands arbres. Alors, une enquête où l'on rencontre pour la première fois le Kanak, ce policier pas tout à fait comme les autres, venu de l'île des Pins, un géant d'1m99, un personnage librement inspiré d'un de vos collègues aujourd'hui disparu et à qui vous avez d'ailleurs dédié ce troisième roman, La chance du perdant.
Oui, c'est normal parce que je pense que je lui dois beaucoup. Je me suis inspiré de lui. Je n'ai quasiment rien inventé du personnage. C'est lui, sauf que...
C'était un sacré personnage,
voilà,
alors.
Tout à fait. Sauf que lui mesurait 2,03 m. Mais je me suis dit que mon personnage...
Vous l'avez rapetissé.
Oui, devait être plus petit que lui.
Bon, voilà. D'accord. Alors, cette nouvelle enquête menée par Le Canac, justement, nous plonge dans l'univers du jeu, des jeux d'argent, des paris, un monde que vous connaissez de par votre métier, Christophe.
Oui, c'est ça. Je suis responsable de la section courses et jeux au SRPJ de Toulouse. Et je m'occupe notamment de contrôler les établissements de jeux, les casinos, les hippodromes, tout ce qui concerne les courses hippiques, et puis tout ce qui peut avoir un attrait au monde du jeu.
Donc en fait, c'est pour éviter les fraudes, c'est ça? C'est pour...
Éviter les triches, éviter le blanchiment d'argent, éviter que des parties de cartes se tiennent au fond d'un bar ou dans un cercle clandestin. Essentiellement.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est un secteur, c'est un microcosme qui est très peu connu et il y a tellement de choses à dire dessus que je me suis dit que je pouvais largement faire un roman.
Ah ben oui, tout à fait. Parce que bon, l'enfer du jeu et sa dépendance destructrice, et puis cet adultère pervers, je cite, qui brise les couples, les familles, les vies même. Donc ça, vous avez assisté des fois à
J'ai assisté dans le sens où on a à peu près 150 personnes sur Toulouse qui viennent chaque année s'interdire l'entrée dans les casinos.
Oui.
À cause de leur dépendance et
tout à fait.
Ils viennent le faire de manière volontaire, mais c'est pas forcément très volontaire. C'est surtout ils sont acculés par les dettes, ils sont acculés par les huissiers, ils sont acculés par la famille qui n'en peut plus.
Tout à fait.
Et on a effectivement des situations dramatiques
qui peuvent mener jusqu'à la mort.
C'est arrivé, ouais.
Alors, les personnages de ce roman, on va les aborder. Alors, je dirais, le personnage central et principal, c'est le jeu. Une part vraiment très importante. Après, en personne physique, eh bien, nous avons justement Renato Donatelli, dit le Canac, ce gardien de la paix à Toulouse, qui est le petit-fils du roi de l'île des Pins. Et qui est très attachant, ce géant. Il est empli des valeurs enseignées par Mama Loma, sa mère, le respect des anciens, la valeur de la famille, et je cite, « Le Canac est serviable parce qu'on lui a appris à se soucier de l'autre et que sans entraide, le monde n'aurait aucun sens. » Et c'est tellement vrai et ça fait tellement de bien de se rappeler cette valeur essentielle, surtout en ces temps mouvementés actuels.
Ben merci. Ce qui m'intéressait, c'était justement, c'est Renato, il vient de Nouvelle-Calédonie, il est Canac, et ça m'intéressait que quelqu'un qui vienne d'un ailleurs regarde notre société, en fait. Et lui, il vient avec des valeurs enseignées par son clan, par sa famille.
Oui.
Et il est en France et il regarde notre société qui va mal. Il a son propre jugement et puis il a aussi ses propres manières pour régler les problèmes.
Oui, aussi. Oui. Il a sa propre sagesse aussi. Hein,
voilà,
ça se tarde d'être plus calme peut-être, avec plus de recul que nous, que dans notre société.
Oui. Je pense qu'il a du recul et puis je me suis quand même inspiré de mon ami qui avait une présence rassurante, comme on dit. Qui savait calmer les choses de par sa présence.
Rien, c'est sûr. Avec 2,03 m, forcément, ça devait imposer une certaine...
Il était célèbre pour ces menaces. Lorsqu'on avait des gens qui nous embêtaient, il leur disait, toi, je te laisse le choix. Soit tu passes ton chemin, soit je te mets une gifle amicale.
Ah oui, donc voilà. Donc, il appelle affectueusement ses collègues Gros Chameau.
C'est vrai.
Je n'ai
rien inventé.
Et puis, donc, il distribue des gifles amicales à ceux qui lui barrent la route. Et alors là, ce n'est plus du tout affectueux. Hein, parce qu'une gifle amicale de la part de ce géant, c'est, à mon avis, ça décoiffe.
Hein. Oui, tout à fait. Mais moi, je ne l'ai jamais vu en mettre une. Hein.
Gens préféraient s'abstenir.
Exactement, quand il avait des mains trois fois comme les miennes, donc je pense qu'il fallait mieux s'abstenir.
Alors, un autre personnage central de ce roman, c'est Jérôme Cussac, dit Six, son équipier et chef.
Mmh, c'est ça.
Avec son doigt manquant, vestige d'une, donc, de l'enquête précédente. Mmh. Donc, il faut lire « Abattez les grands arbres » pour savoir. Et puis, donc, il est très différent de Renato Donatelli, mais à la fois, il est pourtant très complice et très soudé. Il y a une très belle amitié entre eux.
Oui, ce qui m'intéressait, c'était souvent les équipes, les coéquipiers dans la police, on ne se choisit pas.
Ah oui, voilà.
On doit vivre ensemble et prendre des risques ensemble. Et, oui. Et donc, il faut que chacun s'habitue
à l'autre,
avec ses défauts, avec ses qualités.
Ses manies, ses...
voilà. Et puis, il y avait quelque chose d'autre qui m'intéressait, c'était qu'on est dans un système où un jeune policier qui a passé plusieurs concours peut sans expérience être chef d'un type comme Renato qui a de l'expérience du terrain depuis des années.
Et, ah oui, donc,
et donc
ça...
cette confrontation entre l'expérience du terrain et puis le savoir des études m'intéressait également.
Oui, c'est comme une sorte de décalage.
Il y a un décalage. Et puis
mais qui peut se compléter quand même.
Qui se complète, et en même temps où chacun des fois prend le dessus voilà, selon les situations.
Selon les situations. Alors un autre personnage, celui de May, qui est central aussi et qui est plein de sensibilité. J'ai beaucoup aimé aussi ce personnage. Cet artiste de street art qui travaille au centre de tri de Toulouse, un endroit difficile et éprouvant, on s'en rend compte en lisant. Et puis donc elle fait des peintures murales et des collages dans les rues de la Ville Rose, grandeur XXL, dans des endroits risqués et pas faciles d'accès, avec son échelle rétractable, son van Volkswagen et vient ici le chien qu'elle a sauvé. Alors je cite, elle veut embellir le vide avec son art, gommer la laideur qui agresse la vue, elle offre une deuxième vie à de vieux ponts rouillés. Et elle est au cœur donc de cette enquête également. Mmh. Elle va croiser le chemin du Kanak.
Tout à fait. C'est un personnage qui est deux en un en fait. Je me suis inspiré de ma fille qui a fait un job d'été dans un centre de tri et qui tous les soirs rentrait en puant, enfin ses affaires puaient, elle puait.
Éprouvant moralement voilà, aussi toutes ces
détritus. Et puis à chaque fois elle nous racontait des choses enfin totalement abjectes ou horribles voilà. Et puis un jour je lui ai dit écoute assieds-toi là, je vais t'auditionner, tu vas tout me dire, tu vas tout me raconter.
Ça me servira dans
Ça me servira dans un personnage. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Mademoiselle Cat, je sais pas si vous connaissez, qui est une graffeuse, une des premières graffeuses sur Toulouse. Et elle m'a parlé de son art. Et puis je me suis dit que j'allais mélanger les deux pour en faire personnage.
Oui, tout à fait. Oui, je trouve en plus que c'est. Enfin.
C'était cohérent en plus.
Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est un personnage qui m'a beaucoup beaucoup plu, tout en sensibilité, tout en. Enfin voilà, la graffeuse et puis qui travaille au centre de tri, parce qu'il faut bien acheter les peintures, tout son matériel, il faut manger, voilà, nourrir son chien, voilà, c'est tout à fait ça. J'ai aimé vraiment ce mélange de deux mondes totalement différents finalement.
Oui, mais qui peuvent correspondre parce qu'on.
Ah bah oui, tout à fait.
Enfin vous voyez, moi je suis flic et la nuit je suis écrivain et, et ben elle travaille au centre de tri
voilà,
et le soir elle fait
des peintures murales dans les rues de Toulouse. Alors un autre personnage qui est important aussi dans la vie personnelle là du Kanak, c'est Grand-mama, dit le diamant noir, dont le Kanak s'occupe avec grande tendresse.
Oui, ce personnage me permettait de faire des allers-retours en Nouvelle-Calédonie en fait.
Faire le lien, voilà.
Faire le lien avec la Nouvelle-Calédonie, parler de la famille, parler des traditions de Nouvelle-Calédonie. Et donc voilà. Et puis dans un roman.
Vous avez déjà été en Nouvelle-Calédonie?
J'y suis allé une fois.
D'accord.
Et j'ai eu la chance, quand j'y suis allé, de retrouver la famille de Renato, qui est décédée en 2009. J'ai retrouvé sa mère, ses sœurs, ses frères, ses enfants, sa femme. Et donc, j'ai été super bien accueilli. Ils ont été très, très, très gentils avec moi et ça restera un grand souvenir. Voilà.
Et ça vous a aidé aussi sûrement, j'imagine, pour l'écriture de ce...
Oui, ils m'ont raconté plein d'anecdotes. Mais après, j'ai un gros problème par rapport au... ce qu'on peut dire au complexe d'Obélix, en fait, c'est sur les clichés. Il y a des choses que je ne peux pas raconter, voilà, parce que c'est trop gros, parce que on me dirait que c'est que j'en fais trop. Par exemple, le vrai Renato est allé un jour relever ses filets de pêche en Nouvelle-Calédonie, et puis il s'est fait encercler par trois requins. Et en fait, il en a ramené un par la queue sur la plage, tellement il était fort. Voilà. Et donc, ça, je ne peux pas le raconter parce qu'on me dirait que j'en fais trop.
Oui, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte.
D'homme fort, j'en ferai un superman. Et donc, voilà. Donc, des fois, je suis obligé d'atténuer un petit peu.
C'est pour ça que vous l'avez raccourci de quelques centimètres aussi. Alors, il y a aussi d'autres personnages comme Vegas, le tatoueur tatoué, ou aussi un personnage haut en couleur, et puis aussi le magicien tricheur, le mathématicien truqueur, des personnages qui sont bien singuliers et fort sympathiques et qui vont rejoindre l'équipe du Kanak pour cette enquête hors norme et qu'on espère d'ailleurs revoir dans une autre...
Bientôt.
Bientôt, voilà. Alors, si on parlait en quelques mots de l'histoire, pour laisser le suspense à nos auditeurs de Radio Occitanie, alors en quelques mots, un corps est retrouvé dans le compacteur du centre de tri de Toulouse. Une mort atroce, puisque compressée par les déchets en plastique. C'est celui d'un joueur compulsif et désespéré qui se serait suicidé. Alors, dans le même temps, le Kanak découvre par hasard une peinture murale de Miss May, justement, représentant la tête du suicidé compacté. Alors, coïncidence, hasard, et voilà la curiosité du Kanak aiguisé, et du coup, la nôtre également.
Oui, bah, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Enfin, cette histoire aborde le thème des paris. À l'heure actuelle, enfin, on l'entend aussi dans
la réalité.
Dans la réalité, dans les infos. On a plus en plus de sports qui sont corrompus et à cause des paris. Il y a 70% des paris qui se font en Asie, qui représentent des sommes folles. Et effectivement, on a du mal à savoir où ça peut s'arrêter, en fait.
Et comment l'arrêter, moi, je dirais, c'est ça. Ouais, parce
je
que
pense
c'est...
pas qu'on puisse l'arrêter, ah, parce ouais, que bon. Le jeu fait partie des déviances de l'homme. Mais, mais effectivement, je pense que voilà, le thème central de ce roman, c'est ça.
Alors justement, voilà, comme vous le disiez, dans cette enquête, le lecteur découvre donc l'univers du jeu, hein, jeu d'argent, casino, paris sportifs, jeux en ligne, machines à sous, cercle de poker, mais aussi l'envers du décor, parce que c'est-à-dire l'enfer vécu par les joueurs et leur entourage, des joueurs devenus compulsifs, addicts, comme des drogués, et qui mentent à leur famille, à leurs proches, et sombrent dans un désespoir qui peut mener jusqu'au suicide, vous nous l'avez dit tout à l'heure, la spirale descendante, car gain annonce toujours perte, c'est mathématiques.
C'est mathématiques, c'est le titre en fait de mon roman La chance du perdant. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui vont jouer pour la première fois. Mm-hmm. C'est-à-dire, je leur souhaite de perdre. Parce qu'en fait, gagner la première fois,
c'est, ça amène à continuer.
Ça amène à garder un espoir lorsqu'on
de
perd.
De gagner
par la
plus,
suite.
De voilà. Gagner toujours plus.
Et donc, surtout quand on s'enfonce dans les dettes, on se dit, mais j'ai déjà gagné, donc je peux regagner.
Ce qui n'est pas forcément vrai. Ouais, c'est terrible.
Ou
alors, si on gagne une fois, faut vite partir et ne pas revenir.
Oui.
Aller boire, aller faire un bon restaurant, je sais pas, ça dépend de
mais
la somme.
Mais il y a
somme,
très peu de personnes qui en sont capables. Voilà.
Alors, une enquête plutôt sombre, mais qui nous offre aussi, par ses personnages et certaines situations, de la douceur, des sourires, de l'humanité et aussi de l'espoir. Et on en a besoin aussi. Alors, les lieux, cette enquête se déroule à Toulouse et l'on redécouvre avec grand plaisir certains lieux, comme par exemple le Bikini, le quartier Saint-Pierre et les soirées étudiantes, le 55, cet espace dédié au street art, et puis le Jolimont aussi, le Kaouzou, si Guy nous écoute, ou encore, bien sûr, le casino de l'île du Ramier.
Vous parliez de personnages. Je pense que Toulouse est un vrai personnage.
Aussi dans ce livre, tout à fait.
J'adore me balader dans Toulouse.
Vous êtes un amoureux de la ville rose.
J'aime cette ville, oui, parce que en fait, elle est, je dirais, le, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elle n'est pas lisse. Il y a des villes qui sont plus, plus tranquilles, plus paisibles. Toulouse, c'est une belle cité et en même temps, on peut tout avoir. Il y a des énormes industries, il y a le métro, on a des quartiers sensibles. Donc, c'est tout un mélange qui fait que c'est une vie bouillonnante à l'intérieur de Toulouse et c'est ce qui me plaît. Voilà.
Donc, c'est pour ça que voilà, vous avez choisi donc, cette ville comme, oui. Comme décor voilà, de ce roman. Alors, des situations où l'on sourit aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup souri au début du roman avec le loto bouse.
Mais ça existe, c'est vrai. Ça,
ah oui ?
Oui, c'est vrai.
Ça existe vraiment. Bien on sûr. Peut parier sur les bouses de vaches.
Bien sûr. D'accord. Vous avez des fêtes de village qui sont organisées, notamment en Bretagne, où on trace en fait un rectangle, enfin on trace des cases sur un champ, on les numérote. Et puis ensuite, on peut faire des paris sur chaque numéro et on lâche une vache dans le champ.
Et on va voir.
Et là où elle dépose sa première bouse, c'est le numéro gagnant. Voilà. Donc ça, c'est des
vrai,
choses que j'ai rencontrées au cours de mes quelques années au cours ces jeux. Et donc voilà, ça me permettait aussi de montrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que la vie d'un flic, elle peut être très noire un jour et puis un autre jour, ça peut être
détendu. Comme il y a le pickpocket en landau aussi, alors ça j'ai trouvé quand
oui,
même.
Oui, ça c'est quelque chose.
Ça est arrivé aussi.
Oui, c'est arrivé. Moi j'ai travaillé dans le métro parisien pendant une année au début de ma carrière et effectivement il y avait à la gare de l'Est, on avait fait un type qui volait des portefeuilles et les mettait dans un landau où il n'y avait pas de bébé, bien sûr, dedans.
Oui, mais qui se méfierait d'un jeune papa, on va dire, ou d'un papa, voilà, avec un landau, voilà.
En fait, j'ai pas besoin de beaucoup inventer, si ce n'est l'intrigue, parce que
vous le vivez
en une journée de travail, j'ai toujours quelque chose de à noter.
Alors, la visite de la maison de retraite aussi, ça m'a fait beaucoup sourire.
Oui, sourire
cette
ou pas.
Cette visite par le canac.
C'est pas forcément très glamour.
Non, mais enfin voilà, c'est.
Mais on connaît tous.
C'est édifiant,
oui,
hein. C'est
sûr.
Édifiant quand même.
Mais on connaît tous des gens qui ont besoin de placer des parents dans des maisons de retraite et on sait quelle galère ça peut être.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, ça m'intéresse aussi de parler de ça.
Et alors la théorie du canac sur les bébés pigeons, alors je crois que ça c'est découvrir au lecteur.
Non, mais pas qu'on en parle.
C'est excellent, oui. Alors on parle aussi littérature hein, puisque il y a Borisier, enfin plutôt Vernon Sullivan avec J'irai cracher sur vos tombes. Il y a aussi du cinéma avec les films d'Alfred Hitchcock et puis aussi Autant en emporte le vent avec l'irrésistible et inoubliable Clark Gable. Et puis de la musique aussi avec Calypso Rose, Johnny Cash, Iggy Pop, il y a tout ça dans votre roman, Christophe.
Mmh. Tout un mélange.
Tout un cocktail gagnant. Voilà, tous les personnages vont être amenés à se croiser avec d'autres beaucoup moins sympathiques aussi dans cette enquête musclée au cours de laquelle le canac va découvrir également un secret sur sa famille. Parce que bien sûr il y a l'enquête policière mais il y a aussi la vie du canac en dehors de son travail et on découvre nous aussi les facettes de sa vie personnelle. J'ai trouvé que c'était bien aussi de...
C'est ce que chaque flic vit. Hein. Vous pouvez voir à la télé des policiers qui sont en train de s'occuper d'un attentat, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ils ont peut-être des problèmes avec leur grand-mère.
Oui, ils ont une vie, voilà. Ils ont une vie de famille, voilà, une vie avec des... Voilà.
Donc,
difficile de faire la part des choses, peut-être. De telle heure, on rentre à la maison, et donc il faut faire vraiment une barrière entre le travail...
Ça dépend, oui.
Et
je pense qu'il faut en faire une. Après, voilà, il faut savoir que c'est un tout. Et moi, je ne peux pas décrire juste une enquête policière. Je décris tout ce monde qui tourne autour de...
Mais tant mieux, c'est pour notre plus grand plaisir, Christophe. C'est très bien. Et alors, comme vous l'écrivez à la fin de votre livre aussi, je cite, « Le plaisir d'écrire un roman réside aussi dans l'envie de découvrir des mondes qui nous sont inconnus. » Et justement, pour ce roman, vous en avez découvert plusieurs. Vous le disiez, le centre de tri de Toulouse par votre fille, le street art par Mademoiselle Kat. Tatouage.
Oui, j'ai eu la chance, j'avais une amie qui devait se faire tatouer, puis je lui dis, ah, mais moi j'ai jamais vu ça, je peux venir voir. Elle m'a dit, mais oui, si tu veux. On a demandé à la tatoueuse qui a accepté. Et je me suis retrouvé à poser plein de questions, à découvrir un monde que je ne connaissais pas. Et plus j'écris et plus j'ouvre les yeux sur tout ce qui peut m'entourer. Voilà,
c'est très bien. Moi, je m'intéresse trouve ça, à toutes les, c'est bien d'être curieux. On dit que c'est un vilain défaut, mais je
non,
ne crois pas.
Non, pas du tout, pas du tout.
Alors au final, c'est un roman noir passionnant, avec de l'action et des rebondissements, du suspense jusqu'à la toute fin, bluffant comme au poker, des sourires et des personnages pleins de tendresse, de singularité et d'humanité. Alors Christophe, la question pour terminer cette émission qui vaut de l'or, une nouvelle enquête du Kanak est-elle prévue ?
Elle est prévue.
Ah, quand ?
Je n'ai pas de date.
Oh
non, normalement, c'est dur de... C'est très compliqué parce que pour les parutions, je ne peux pas vous donner une date comme ça, mais ça devrait sortir.
À peu près.
Ça devrait sortir en début d'année prochaine. Il va falloir patienter encore. Il va falloir lire les autres livres.
Bon, d'accord, vous reviendrez nous en parler.
Vous savez, je travaille, donc je n'écris que qu'au moment où je suis tranquille chez moi. Donc,
je comprends.
Plus de temps.
Bon, vous reviendrez nous en parler ?
Bien entendu.
Bon, merci beaucoup Christophe pour votre venue à Page
merci
et
à vous.
La chance du perdant aux éditions Liana Lévy à découvrir donc d'urgence en attendant le prochain. Alors dans notre prochain rendez-vous de Page à Page sur Radio Occitanie, je recevrai Jean-Baptiste Detieux et son nouveau livre Soleil au ventre, les chemins d'un enfant différent, publié aux éditions L'Alchimiste. Rediffusion de cette émission avec Christophe Guillaumeau ce soir à 23h30 et vendredi prochain à 14h30 et 23h30 sur Radio Occitanie. Et on se quitte avec la chanson Immortelle d'Alain Bashung, choisie par mon invité. Pourquoi ce choix, Christophe ?
Parce qu'elle est magnifique.
Ben voilà, tout est dit. Alors merci.
Merci.
On écoute Adisiat.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cacher sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait? Qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près.